Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On vous amène cette fois-ci en Extrême-Orient, plus précisément en Corée, un pays divisé en deux depuis la guerre de 1950-1953 et qui voit s'affronter le Nord et le Sud. Ce Nord, dirigé par Kim Jong-un, qui s'est lancé dans un vaste programme d'armement qui inquiète la région au premier chef, la Corée du Sud et le Japon, et au-delà, les États-Unis. Depuis peu, l'échange semble pourtant, les choses semblent, disais-je, s'apaiser entre Donald Trump et ce pays turbulent à tel point qu'il est question de rapprochement. Le point avec professeur Normand Cornette, connu pour ses entretiens dialogiques dans divers domaines. Il a une fine connaissance de son pays natal, les États-Unis, et de sa politique étrangère. Normand Cornette, bienvenue.
Merci pour l'invitation, monsieur Trottier.
Chaque fois que vous venez, vous nous apprenez des tas de choses. Vous avez un discours clair sur bien des aspects de politique intérieure des États-Unis et également des politiques étrangères ou extérieures.
Et je suis content que vous avez mentionné ce pays divisé. Il faut souligner à l'auditoire de Radio VM qu'il y a un ministère d'unification dans les gouvernements coréens, à tel point cette blessure est béante. Et rappelons la situation géopolitique, c'est que le Corée, qui est une culture, un peuple, un pays, une civilisation millénaire, autant que le Japon et la Chine, se trouve par la géographie entre les deux lames des ciseaux, soit l'empire chinois et l'empire nippon. Et donc cette tension qui est vive et qui fait partie de cette conscience collective coréenne qu'il faut vraiment viser l'unification. Et cette émission tombe bien puisque, à l'heure qu'on se parle, le président Kim Jong-un est en réunion avec le président Moon du Corée du Sud.
Oui.
Et c'est d'autant plus significatif que cette guerre que vous avez mentionnée a débuté en 1950, s'est terminée, enfin,
elle est pas
en principe, en suspens.
Il y a un armistice, mais il n'y a pas eu de traité de paix. Donc, officiellement, les deux pays sont encore en guerre depuis plus de 65 ans.
Ça fait six décennies. Donc, en 1953, on a signé l'armistice et là, la réunion se tient justement là où on a signé l'armistice. Et ce qu'on vise, qu'en but autant le président Moon que le président Kim Jong-un, c'est on veut mettre fin légalement, officiellement, à cette guerre sans fin.
Il y a également derrière la Corée du Nord la Chine, derrière la Corée du Sud les États-Unis et le Japon, si vous voulez, comme satellite. Ça, voilà qui complique encore plus la donne, non?
Le premier ministre Abe, il y a quelques jours, qui était avec le président Trump, vous avez demandé la position du Japon. Eh bien, c'est une grande méfiance. Et pour cause, ils sont en face du Corée du Nord. Quand on tire des missiles et des missiles avec armement, avec armes nucléaires, avec engins nucléaires, eh bien, ça va tomber au Japon, dans la mer. Donc, il y a là une méfiance qui se comprend. Mais il faut souligner pourquoi cette ouverture dans la... ce qui est Il y a en fait une brèche maintenant.
Mais je veux juste terminer une chose. On a parlé d'une guerre qui n'est pas encore finie entre les deux Corées, 50-53, qui s'est terminée avec un point d'orgue, si vous voulez, qui est un armistice et non pas un traité de paix. On va y travailler, espérons, ces temps-ci. Mais il y a également le fait que la Corée du Nord a un arsenal nucléaire. Et ils ont Kim Jong-un. On ne savait jamais si c'était de la bravade ou si c'était vrai, mais on penche davantage vers la thèse que c'est vraiment... Il a de quoi détruire pas mal de monde. Donc, c'est ça le contexte général dans lequel s'inscrit ce rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord après une rhétorique très guerrière entre Donald Trump et Kim Jong-un. Tout cela, on dirait, a été un coup de poker qui semble, porter fruit. La première nouvelle qui a été révélée par la Maison Blanche, c'était que Mike Pompeo était allé rencontrer Kim Jong-un dans le plus grand secret. Ce n'est qu'après coup qu'un tweet de Donald Trump a révélé la chose. Et c'était la première fois qu'un haut dirigeant états-unien se rendait en Corée du Nord. La dernière fois, c'était Madeleine Albright, je pense, secrétaire générale sous Clinton, je pense, non? Et en 2000 ou en 2001. Plus personne ne s'était rendu en Corée du Nord, du côté des États-Unis. Donc il y a Mike Pompeo qui a eu cette rencontre secrète. On ne sait pas trop ce qui s'est discuté, mais c'était déjà un pas en avant.
Oui, dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on parle de Kim Jong-un maintenant, ici, sur les ondes de Radio VM? Comment se fait-il que le monde entier connaît ce nom et pourtant il s'agit d'un tout petit pays? C'est justement parce qu'il s'est muni d'armes nucléaires. Donc, ça lui a donné un profil, une visibilité internationale.
Oui.
Et il s'en sert, comme vous dites, c'est un jeu de cartes. Il joue ses cartes. Et c'est sans précédent ce qui se passe aujourd'hui même, en ce moment même. C'est la première fois que quelqu'un de du Corée du Nord, un chef du Corée du Nord, retourne dans le Corée du Sud. Et il y avait le grand-père Kim, il y avait le père Kim, et là maintenant le petit-fils. Et donc, Moon, il faut dire que le président Moon du Corée du Sud, c'est d'abord un avocat, et un avocat pour les droits humains.
Ah bon?
Donc, il a un esprit large. Et lui, pourquoi est-ce qu'il a pris cette initiative? Il s'est bien rendu compte avec Donald Trump dans la Maison Blanche que le Corée du Sud perdait le contrôle de son propre avenir, de son destin, avec un discours si belliqueux de la part de Donald Trump. Donc, il a fait des pas diplomatiques. Et quand on parle de Mike Pompeo, d'abord, il y a très peu de secrets dans la Maison Blanche de Donald Trump. Eh bien, c'était le secret le mieux gardé. Donc, là, on voit qu'il y a une cohérence. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Radio VM qu'il y aurait un nouveau ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud. Pardon. Et c'est nul autre que l'amiral Harris, qui est chef, commandant suprême des forces militaires dans le Pacifique, qui va devenir le nouvel ambassadeur. Donc, on voit très bien qu'il y a une cohérence chez Trump, en fin de compte. Il y a John Bolton, qui est maintenant National Security Advisor.
Conseil à la Sécurité nationale.
Il y a Mike Pompeo, qui est un secrétaire d'État. Et puis là,
Encore? Parce qu'il doit passer un test au Sénat et son nomination n'est pas.
Il a passé.
Donc ça, c'est acquis.
Oui. Donc c'est acquis. De toute façon, les républicains ont une majorité mince dans le Sénat. Donc,
mais ils l'ont quand même.
Mais même les démocrates ont dit il faut aller de l'avant avec Mike Pompeo, quelques démocrates en tout cas, parce qu'on voit que ça bouge. Il y a une ouverture. Et tant et aussi longtemps qu'il y a du dialogue, il y a de l'espoir.
Alors, il y a quand même une ambiguïté parce que il y a, je pense, d'ailleurs, au début, quand on a appris le secret que Mike Pompeo était allé rencontrer Kim Jong-un en Corée du Nord, on n'était pas sûr si les deux présidents allaient se rencontrer, Donald Trump et Kim Jong-un. Maintenant, c'est chose acquise. Ils vont se rencontrer début juin. Il y a quand même, le Japon et la Corée du Sud sont quand même très prudents et méfiants parce que, évidemment, Donald Trump a tout intérêt à montrer ça comme une victoire diplomatique. C'est déjà une demi-victoire diplomatique.
C'est plutôt Kim qui peut crier victoire.
Trump a besoin aussi de bons arguments. Il est entouré de scandales. Enfin, il peut montrer qu'il était visionnaire.
Aucun président, et ça depuis 6 décennies, aucun président à la Maison-Blanche actif a jamais rencontré le chef du Corée du Nord.
Voilà.
Donc, pour le président Kim Jong-un, c'est un coup d'éclat, c'est un coup de théâtre. Il fait partie des grands.
Oui.
Alors, lui a tout à gagner. Et quand on dit que c'est acquis, que Trump et Kim Jong-un vont se rencontrer chez Donald Trump, rien n'est acquis. Il peut changer d'avis, on le voit très bien.
Mais Kim Jong-un, je vous cite une ou deux déclarations qu'il a faites lors d'une réunion du comité central de son parti en Corée du Nord, Parti communiste forcément. Je cite Kim Jong-un. « Comme le caractère opérationnel des armes nucléaires a été vérifié, il n'est plus nécessaire pour nous de mener des essais nucléaires ou de lancer des missiles à moyenne et longue portée. » Il rajoute « Le site d'essais nucléaires du Nord a rempli sa mission. » D'un côté, il y a des gens qui voudraient que la Corée du Nord soit dénucléarisée. Ce que Kim Jong-un semble dire dans ses déclarations devant son parti récemment, c'est que maintenant on a un arsenal, on peut arrêter, on a quand même le gros bâton derrière notre dos au cas où. Il y a deux discours là.
C'est certain qu'il a fait valoir son point et il a gagné ce point-là.
Oui.
Toutefois, il est protégé de la Chine. La Corée du Nord n'existerait pas sans la Chine, et ça depuis le début.
D'ailleurs, la guerre entre les deux Corées de 50-53 ne peut arriver à un traité de paix qu'avec l'aval de la Chine et des États-Unis.
C'est certain. Mais la Chine, qui est quand même beaucoup d'intérêt dans la Chine, vient de déclarer que la raison que Kim Jong-un ne fait plus de tests, c'est que son site nucléaire, il y a eu tellement de dommages, de dégâts, qu'il ne peut plus s'en servir. C'est peut-être et c'est la Chine qui le dit. Donc, la Chine a tout intérêt, et c'est pas pour rien que Kim Jong-un s'est rendu à Beijing pour la première fois. Il faisait un voyage à l'étranger. Parce que c'est bien évident qu'il est le serviteur humble de la Chine.
De petit frère à tout petit, mais qui est très embarrassant. Souvent, la Chine est embarrassée de ses rodomontades. Alors justement, Donald Trump va rencontrer Kim Jong-un début juin. Alors, vous disiez victoire déjà pour Kim Jong-un. Moi, je pense également victoire pour Donald Trump, qui est entouré de scandales. Là, il montre qu'il est un vrai chef d'État visionnaire, avec une cohérence, comme vous disiez, Normand Cornette. Parle-t-on d'un coup diplomatique inattendu, d'un piège tendu par un dirigeant, Kim Jong-un, qui est plus malin que Donald Trump?
Les deux à la fois. Kim Jong-un n'a rien à perdre dans ce pari, alors que Donald Trump, oui. Le Japon, peut-être que oui. Donc, il y a une méfiance qu'on comprend très bien. C'est surtout, M. Trottier, un coup pour Mike Pompeo, qui a donné l'exemple au président Trump. La façon qu'on fait de la diplomatie, c'est d'une position de force. Oui. Rappelons que Mike Pompeo était lui-même un ancien du West Point Academy. C'est un militaire, un officier qui a fait les champs de bataille au Moyen-Orient. C'est également, il a un doctorat en droit de Harvard University. C'est un homme d'affaires qui a très, très bien réussi ses affaires. Donc, il sait que la façon d'arriver à une solution, et sa position est claire et nette. Autant Mike Pompeo que John Bolton, que le nouvel, enfin, l'ambassadeur, l'amiral Harris, ce sont tous des militaires qui ont une position pure et dure et forte, donc on sait avec qui on a affaire. Et c'est ça qu'il fallait. Il fallait une cohérence. Et donc, je dirais, c'est surtout une victoire de Mike Pompeo qu'il a pu garder secret dans une administration qui est sans discrétion, qui est sans pudeur. Eh bien, Mike Pompeo a établi le paradigme. Dorénavant, ça marche comme ça. Maintenant, moi, je suis secrétaire d'État.
Non, mais mettons qu'on est en juillet maintenant. La rencontre a eu lieu entre Donald Trump et Kim Jong-un, président de la Corée du Nord. Et il y a des percées. Il faut que les États-Unis rassurent le Japon et la Corée du Sud, et surtout le Japon, qui est très craintif. La Corée du Sud, on peut comprendre également, parce que la seule frontière que la Corée peut avoir, la seule frontière terrestre, c'est avec l'ennemi fraternel, c'est le frère ennemi. Il n'y a pas d'autre frontière, il n'y a pas d'autre pays qui peut faire, à moins de le faire de façon navale.
Mais le rêve, c'est d'abolir cette frontière.
Oui.
Et je me souviens, mon dirigeant de thèse pour le doctorat, c'était un Allemand. Alors, il croyait dur comme le fer que jamais on pourrait unifier les deux Allemagnes.
Oui.
Eh bien, on l'a vu.
Donc, on pourrait...
Tous les espoirs sont permis. Un tel rêve de l'unification des deux Corées. Et c'est ça, justement, qui est en jeu, et avec les deux présidents, aujourd'hui même, ainsi qu'avec Donald Trump et Kim Jong-un. Il faut voir un nouvel avenir. Il faut rêver. Il faut se permettre de rêver d'un Corée unifié et pacifique, sans des armes nucléaires, sans un programme nucléaire.
Normand Cornette, la Corée du Nord a aussi une frontière avec la Russie. Est-ce que la Russie a son mot à dire dans tout cela, ou elle n'est qu'un observateur lointain et distant?
Elle n'a pas de frontière avec la Russie.
Il n'y a pas une frontière avec la Russie, mais sans laquelle elle a un bout de frontière.
C'est un autre allié, un autre allié très très fort. Donc c'est certain, vous avez mentionné que la Chine aura son mot à dire, les États-Unis, mais c'est certain que la Russie aussi aura son mot à dire dans tout cela. Mais ce qui m'inspire, ce qui m'encourage dans tout cela, moi je suis né au début de la guerre en Corée et pendant pratiquement toute ma vie adulte, j'ai vu la guerre entre protestants et catholiques en Irlande du Nord. Et on a résolu, on a réconcilié les frères ennemis. On a vu l'unification de...
Elle est fragile,
de l'Allemagne.
Paix.
Elle est fragile, mais elle tient. Elle tient toujours.
Malgré le Brexit
On en parlera. Oui, c'est quelque chose. L'unification de l'Allemagne. Ma belle-fille est allemande, donc moi je vais très souvent dans l'ancienne Allemagne de l'Est. C'est incroyable de saisir cet esprit de corps. Eh bien, les Coréens ont également un esprit de solidarité. Ils ont une identité forte et millénaire.
Qui transcende le côté communiste ou le côté capitaliste.
Oui.
Ça, il va falloir fonder une Corée basée sur une histoire millénaire pré-capitaliste ou pré-communiste.
Oui, oui, mais l'Allemagne le fait. Et avec un grand succès. C'est possible. Tant qu'il y a le dialogue, il y a de l'espoir. Et or, là, on est au début. Et cette blessure béante de la division des frères, des sœurs et des familles, ça continue. Il y a des familles coréennes déchirées.
Qui ne sont pas vues depuis 1953, au moins.
Depuis 60 ans. Donc, c'est possible. Si c'est possible en Irlande du Nord, si c'est possible entre les deux Allemagnes, eh bien, c'est possible. Et on est au début d'un long processus. Et il faut signaler à quel point le discours belliqueux s'est arrêté.
Mais c'était une carte maîtresse de poker chez Trump.
Oui, chez les deux.
Oui, chez les deux. Mais l'autre, on était habitué chez le premier. Trump venait d'arriver à la présidence.
Mais la paix va se faire dans la discrétion, dans la quiétude et dans la pudeur. Et là, on voit les marques de commerce de Mike Pompeo.
Et la marque de commerce de la Corée qu'on appelle les pays des matins calmes.
Voilà.
En une minute, Normand Cornette, pensez-vous que cette évolution positive, on pourrait également la rêver pour Israël et la Palestine, ou ça c'est vraiment une autre planète? Je vous pose la question en une minute, c'est trop court peut-être.
Je crois qu'il faut être réaliste, on parle de réel politique, n'est-ce pas?
Oui.
Ce n'est pas la première fois, M. Trottier, qu'on a entamé un dialogue entre le Corée du Nord, le Corée du Sud.
Exact.
Ce n'est pas la première fois qu'il y avait une ouverture, le début d'un processus, et chacun a échoué.
Tout à fait.
Donc, je crois qu'il faut garder le cap et au lieu d'avoir un discours qui enflamme les esprits, qui divise Coréens Nord et Sud, Japonais et Américains, il faut viser la condition humaine qui est celle de tous ces gens-là.
C'est exactement ce que les Japonais pensent également. Ils sont plus prudents. On peut comprendre pourquoi. Écoutez, alors vous nous parliez donc de ce rapprochement plutôt inouï pour l'instant entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sous l'égide de la Chine et des États-Unis. Merci beaucoup, Normand Cornette.
Merci à vous. Et je crois que c'est sans précédent et c'est ce que Donald Trump vise. Des gains, des victoires sans précédent.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, nous parlons de la première édition du tour guidé du musée Marguerite Bourgeois et ensuite christianisme et anthropomorphisme. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous dis à demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.